Rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, évidemment en l'honneur de Noël, en l'honneur de Jésus, en l'honneur de ce grand jour où Jésus est venu ici se faire des amis. Il avait de grands amis. Et on peut se demander si au bout de 2000 ans, il a encore des amis, des vrais amis. Et si nous sommes vraiment ses vrais amis, ou si nous contentons de faire semblant, et moi le premier, c'est pas facile, être un ami de Jésus, vraiment. C'est à la lecture, hier, dans la messe de minuit, que je me suis mis à réfléchir encore à ça davantage. Je le fais depuis quelques semaines, à préparer cette émission. Et je lisais ce que saint Paul, qui était un grand ami de Jésus, il l'a pas connu, il l'a connu par une apparition, mais il s'est donné à lui totalement pour en devenir l'un des plus grands amis de tous les temps. Il écrit à un autre ami de Jésus qui s'appelle Tite et qui était son disciple. Et on nous a lu ça hier. Je voyais même à la télévision la messe du pape à Rome, et cette lecture très bien faite, il y était dit, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, pour la libération de tous les hommes, pour que les hommes soient heureux, enfin, c'est ça que ça veut dire. La grâce de Dieu s'est manifestée. C'est Jésus, ça. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. Pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, un homme juste, un homme religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent, ardent, ardent à faire le bien. C'est des textes puissants, ça. Et alors, quand on se demande si Jésus avait des amis, bien, il fréquentait des gens. Et c'est intéressant, quand on lit les évangiles, de voir ce qu'il fait. Quand Jésus était dans son pays, là, il avait beaucoup d'amis. Ses amis le recevaient dans leur maison, puis ils l'invitaient à leur table pour manger ensemble, comme nous faisons ces jours-ci. Et qu'est-ce qu'il leur disait quand il était à table avec eux? Qu'est-ce qu'il leur disait? Un jour, vous souvenez, Jésus était dans la maison de ses amis Lazare, Marthe et Marie. Et puis Marthe était très occupée à préparer le repas. On connaît ça, hein? Marie était assise auprès de Jésus et elle l'écoutait. Hein? D'après les grands spécialistes actuellement, cette Marie était la même que Marie de Magdala, la pécheresse. C'est la convertie, ça. C'est celle-là qui est assise comme ça auprès de Jésus, et qu'il l'écoute. Elle est pâtée de la prostitution, semble-t-il, à l'écoute. Beaucoup d'exégètes pensent que c'est la même. Les exégètes, les spécialistes de la Bible, comme vous savez tous. Hein. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, cela ne fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas ôtée. Étrange réponse, hein? Au lieu de la remercier, il lui dit que c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle fait rien. Elle fait rien? En répondant ainsi, Jésus fait comprendre à Marthe que le plus important pour être son ami, ce n'est pas de préparer un bon repas, mais c'est d'avoir le souci du royaume de Dieu. Moi, je dirais que les deux, évidemment, vont ensemble, c'est ce qu'il faut dire. Hein? C'est très bien préparer un bon repas, c'est même une excellente chose. Ça prend beaucoup de dévouement, puis on le fait à l'accueil Bonneau avec beaucoup de dévouement pour les plus pauvres. Hein? On le fait dans nos familles. Mais au creux du bon repas, il faut avoir le souci du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir le souci du royaume de Dieu? On va voir ça petit à petit au cours de l'émission, hein. Un autre jour, des amis de Jésus l'invitent à un mariage. Vous vous souvenez de ça? Jésus s'y rend ainsi que sa mère, la Sainte Vierge, sa maman, et ses disciples. Puis au milieu du repas, c'est la catastrophe, il n'y a plus de vin. Catastrophe, ça, dans un dîner de Noël, quand il n'y a plus de vin. La mère de Jésus s'en aperçoit et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, « Femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Écoutez bien ça, c'est très important. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Et on le sait, mais tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ça s'applique au sens mystique, ça. Pas simplement pour les serviteurs, là, qui... Non. C'est une parole de Marie qui est très importante, ça. Tout ce que mon fils va vous dire, faites-le. Il y avait là six grands récipients en pierre, et Jésus dit aux serviteurs, remplissez-les d'eau. Alors ils les remplissent jusqu'au bord, et Jésus leur dit, puisez maintenant, et portez-en au maître du repas. Alors le maître du repas, l'hôte, celui qui recevait tout le monde, eh bien, il goûte l'eau changée en vin. Il sait pas d'où provient ce bon vin. Il appelle le marié, il lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gays, un peu partis, un peu pompettes, là, ben on sert le moins bon, puis ils s'en rendent pas compte. Hein. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Il est surpris, c'est vraiment du bon vin que Jésus fait. Hein. Le meilleur, c'est celui qu'on peut prendre à l'occasion quand on communie sous les deux espèces, parce que c'est lui-même. En changeant l'eau en vin, là, Jésus fait un signe pour ses amis. Hein. Qu'est-ce qu'il veut leur montrer, à ses amis? Il veut leur montrer que c'est lui, Jésus, qui apporte la joie à ses amis. Il apporte la joie à ses amis. Et la vie de Dieu au monde aussi. Tout ça pendant un repas. C'est pratique des repas. Pour faire des échanges. Pour dire des choses. Brièvement. Une autre fois, un homme important invite Jésus à sa table. Encore une table. Hein? Moi, j'ai pensé qu'on pourrait parler de ça aujourd'hui, au début. Hein? Alors Jésus entre chez lui. Prend place, au cours du repas, une femme entre dans la maison. Et cette femme avait fait beaucoup de péchés. Et dans la ville, on l'appelait la pécheresse, puis elle vient auprès de Jésus. Elle se met à ses pieds en pleurant. C'est la bonne époque pour se confesser et aller aux pieds d'un prêtre ces jours-ci, pour pleurer sur nos péchés, nos mouvements d'impatience. Et toutes les choses qu'on fait, qu'on devrait pas faire. Puis elle arrose ses pieds de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Puis elle verse dessus du beau parfum. Un parfum de grand luxe. Elle avait un peu d'argent. L'homme qui avait invité Jésus était choqué, lui. Il pensait en lui-même, oh, si Jésus est un homme de Dieu, il devrait savoir que cette femme est une pécheresse, hein? J'entendais ça encore ces jours-ci. Si le pape était un homme de Dieu, il quitterait le Vatican puis irait loger dans une petite cabane quelque part. Que c'est innocent, comme si c'était possible. Voyons donc. Avec tout le monde qui le reçoit, avec tous les gens qui vont le voir, faudrait abandonner tout ça. Bon, d'accord, c'est peut-être trop beau, mais ça a été fait, ça a été fait. On détruit pas ce qui est beau comme ça. Hein. Ça coûterait très cher que de déménager puis de s'en aller ailleurs. Vous prendrait-il l'argent? Jésus lui dit à cet homme, « Tu vois cette femme, ses nombreux péchés lui sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. » C'est une des plus belles paroles de Jésus, ça. « Tu vois cette femme, ses nombreux péchés lui sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est signe qu'il était Dieu, me semble. Ça. Dieu seul peut pardonner comme ça. Alors, tout le monde peut être ami de Jésus. On va voir tout à l'heure si nous sommes vraiment des amis. On va faire un examen de conscience entre nous. Parce que la femme qui prépare son repas, puis celle qui reste assise à l'écouter, sont des amis. Les jeunes gens qui se marient, puis qui manquent de vin, et tous ceux qui se réjouissent avec eux parce qu'il y en a, sont des amis de Jésus. Même la femme qui a fait beaucoup de péchés peut être aussi amie de Jésus. Hein? Tout le monde peut être ami de Jésus. Tout le monde. Jésus nous appelle à devenir ses amis. Il nous dit, vous êtes mes amis. Et au chapitre 15 de Saint Jean, c'est beau ça. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est là-dessus que je vais m'appuyer pour vous parler tout à l'heure. Un peu comme la Sainte Vierge qui disait tout à l'heure, tout ce qu'il vous demande, faites-le. Alors, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je répète, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et voici mon commandement. Il est beau, son commandement. Il n'est pas facile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est beaucoup, ça. Je vous appelle amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, c'est pour faire connaître ce qu'il a appris de son Père. Il est le Verbe, la parole éternelle. Moi aussi, je peux être un ami de Jésus. Oui, je peux lui dire tout ce que je pense, mes joies, mes peines, parce que Jésus m'écoute. Ce que je dis est important pour lui, très important. Moi aussi, je peux écouter Jésus. Je peux l'écouter. Où est-ce que je vais trouver ces paroles, hein? Puis dans mon évangile, c'est à la messe du dimanche, et si possible, à la messe tous les jours, il y a un évangile qu'on lit là. Les catholiques lisent l'évangile tous les jours. Ils vont à la messe tous les jours. Pas rien que l'évangile, mais si, la lecture qui précède. Eh bien, à moi aussi, Jésus vient donner la joie de Dieu. Et à moi aussi, il apporte le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, oui, je veux bien être ton ami. Oui, j'écoute ta parole, je la lis, je la mâche, je la médite, je veux la faire mienne. Tu me dis ce qui est important pour Dieu, mais aide-moi à le comprendre. Tu me dis ce qui est important pour moi, mais aide-moi à le croire. Oui, aide-moi à le croire, mais comment le croire? Comment le croire, mon Dieu? Heureusement, tu nous envoies des tas de gens qui écrivent des beaux livres, et il y en a un de ton grand ami, Seigneur Jésus, ton grand ami Jean Vanier, qui a écrit un livre qui porte ton nom, Jésus. Il s'est écrit en dessous, en lettres rouges, comme avec du sang, le don de l'amour. Et puis, Jean Vanier a fait paraître ça chez Bellarmin, la belle maison d'édition à Montréal, que les Jésuites ont fondée, et qui s'appelle Bellarmin, puis c'est paru tout récemment, hein, il y a quelques années à peine, c'est un beau livre. Et puis dans ce livre, j'ai trouvé toutes sortes de belles choses. Et puis je vais les communiquer en ton nom. C'est quand tu dis « je suis » et que tu dis que tu es Dieu en somme. Un jour, Jésus s'est mis à parler à quelqu'un qu'il connaissait pas. Même si c'est une Samaritaine, c'est même pas une Juive. Et puis, on l'appelle dans la tradition chrétienne, Sainte Photine. Je vous en ai déjà parlé de Sainte Photine, la Samaritaine. C'est beau, hein? Vers la fin de sa conversation extraordinaire avec Jésus, la Samaritaine, Sainte Photine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je sais que le Messie doit venir, et quand il viendra, il nous expliquera tout. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, le jour où il est venu. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Curieux, ça. Je suis moi qui te parle. On trouve ça dans Saint Jean, chapitre 4, hein? Il ne dit pas « je suis celui-là » ni « je suis celui qui doit venir », mais tout simplement « je suis moi qui te parle ». C'est le nom suprême de Dieu, ça, qui a été révélé à Moïse lorsqu'il a demandé « Seigneur, s'ils me disent quel est le nom de Dieu, que leur dirais-je ? » Et Dieu dit à Moïse « je suis celui qui est ». Voilà ce que tu diras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. Or, dans l'huitième chapitre de Saint Jean, là, Jésus révèle ce nom. Je suis. Vous savez, des fois, on a des embêtements, c'est Noël, et puis les gens dans notre entourage disent que, Jésus, c'est rien qu'un prophète, et puis c'est un gars comme les autres, et c'est un bon, c'est peut-être le meilleur, c'est vraiment un modèle à suivre, mais moi, je vois pas la messe, parce que moi, je suis pas catholique, j'ai quitté ça, puis il raconte des histoires, qu'ils lisent les textes. Et si on les lisait nous-mêmes, peut-être qu'on pourrait leur parler, puis les aider un petit peu, s'ils veulent nous écouter, c'est ça le problème, parfois, s'ils veulent nous écouter, hein. Alors, Jésus dit, vous, vous êtes d'en bas et moi, je suis d'en haut. Il n'y a pas de prétention à dire ça. Il dit ce qui est. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Ce sont des paroles fantastiques, ça. Si Saint Jean osait écrire ça, c'est des blasphèmes épouvantables. Qu'un homme ose mettre dans sa propre bouche le titre de Dieu lui-même, je suis, c'est signe qu'il l'est, ou il est fou. Plus tard, il dit même, là c'est dans Saint Jean chapitre 8, l'évangile de Saint-Jean. Et plus tard, il dit cette parole extraordinaire qui m'a ébloui. Moi qui avais plus ou moins perdu la foi en la divinité de Jésus, à un moment donné, je me pensais plus fin, n'est-ce pas, toujours. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham exista, je suis. C'est écrit en toutes lettres. C'est extraordinaire, des textes comme ça. Et durant le dernier repas, tu sais, la veille de sa mort, le jeudi saint au soir, il dit, je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que je suis. Les gens qui disent, il a jamais dit qui il était, ne savent pas lire, à mon avis. Jésus même dit bien d'autres choses. Vous direz, il les a jamais dites, c'est Saint Jean qui l'invente. Mais pourquoi Saint Jean? Un juif. D'accord, il y a une formation un peu grecque. Mais comment ça se fait que ce type-là écrive des choses comme ça qui sont contraires à tout ce qui lui aurait dû lui mériter le martyr, puis il n'est pas mort martyr, il est allé vivre ailleurs. Il écrit ces paroles de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Je suis le pain de vie. Je suis la vraie vigne. Il ajoute même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il me semble que Saint Jean l'évangéliste annonce la divinité de Jésus d'une façon si claire, au tout début de son évangile d'ailleurs. Pas, il me semble, j'en suis convaincu. C'est évident. Au commencement, vous vous souvenez, on lisait ça à la fin de toutes les messes pendant toute notre enfance, nous les plus vieux, c'était en latin. Le prêtre s'en allait à gauche de l'autel, là qu'on appelait le côté de l'évangile. Puis là, il murmurait des paroles. Sacrée parmi les plus belles de tous les temps. L'un des plus beaux textes, sinon peut-être le plus beau de tous les textes. Et nous lisions ça dans nos bains, dans nos gros missels de Don Lefebvre ou de Don Fédère ou d'autres. Et on lisait ça et c'était beau. Oh, comme j'aimais ça quand j'avais 10 ans. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui rien ne fut. Puis il y a la grande révélation. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et ça, c'est clair. Je pourrais m'étendre sur cette question, mais je crois qu'il est préférable d'aller au cœur des choses maintenant pour voir si nous sommes des amis. Comment devenir des amis de cet homme qui affirme que son nom, c'est « Je suis ». Nous, chrétiens, nous sommes appelés à devenir les icônes de cet homme, du Christ. Nous sommes appelés à le refléter, comme dit Catherine Doherty. Mais nous sommes appelés à plus encore, parce que le mot icône, c'est un mot grec pour désigner quoi? L'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On nous répète ça, mais on ne sait plus trop ce que ça veut dire, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Nous sommes des petits vermisseaux perdus sur une petite planète dans un immense espace. Et puis, à l'image de Dieu? À l'image de Dieu? Oui, oui. C'est extraordinaire, hein? Nous sommes appelés à l'incarner dans notre vie. À l'incarner, c'est le jour de l'incarnation aujourd'hui. Ben, nous sommes appelés, nous, à l'incarner dans notre vie. C'est pas suffisant qu'il se soit incarné. Faut qu'il s'incarne dans notre vie. Nous sommes appelés à en revêtir notre vie, toute notre vie. Comme cette personne que j'entendais la nuit dernière, à Radio Ville-Marie, Lydie Auger, c'est un exemple. Oui, elle s'occupe, avec sa petite camionnette, la Colombe, elle s'occupe des plus pauvres, des plus délaissés, des itinérants. Nous sommes appelés en sorte pour que les hommes puissent voir Jésus en nous, le toucher en nous, le reconnaître en nous. Oh, je sais que je dis des choses terribles, j'en suis indigne. Et comment faire? Je regarde ceux qui le font et je me dis, faudrait que je fasse comme eux. C'est Catherine Doherty qui dit que quand nous ne vivons pas l'Évangile sans transiger, ou du moins quand nous n'essayons pas, quand nous faisons pas au moins un pas en avant, eh bien, nous ne sommes que des squelettes. Or, on ne se met pas en peine d'avoir affaire à des squelettes, hein? Si nous, catholiques et chrétiens, nous sommes des squelettes, mais personne ne s'intéressera à nous. Des squelettes. On peut résumer tout l'Évangile en disant qu'il est cette chose énorme de tendresse et de compassion. Extraordinaire. Extraordinaire de douceur. Révolutionnaire et explosive. Hein, la loi d'amour du Christ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que Jésus, il appelle chacun de ceux qui se disent chrétiens, qui se disent ses amis. Oui, il nous appelle directement. Et cet appel est intransigeant. Hein? « Qui n'est pas avec moi et contre moi, lui dit-il. » Oh là là. « Qui n'est pas avec moi et contre moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On dit toujours, « Bah, c'est plus nécessaire de garder. On peut avorter, on peut tuer nos enfants naissants. » On peut ci, on peut ça, on peut faire n'importe quoi. Dieu nous aime tellement, vas-tu nous pardonner? Oui, il nous aime tellement parce que c'est un amour qui nous appelle à aimer comme je vous ai aimé, dit Jésus. Jésus faisait pas n'importe quoi. On peut trouver dans l'Évangile je ne sais combien de passages qui font entendre vigoureusement, à notre esprit, pas à notre cœur, la simplicité de son appel, l'appel insistant à être comme lui, à accepter sa loi d'amour sans compromis. On ne peut nier que cet appel soit révolutionnaire, c'est évident. Si nous, chrétiens, nous y tenions suite, le monde en serait changé en quelques mois, ça prendrait quelques mois, c'est pas long, hein. L'Évangile est radical. Et certes, le Christ, il est à la racine, il est la radix, la racine de toute chose. Et ses commandements entraînent un risque, un grand danger. On peut tomber dans l'exagération, mais il ne s'agit pas de tomber dans l'exagération, il s'agit de tomber dans l'amour. Ils entraînent l'absence de cette sécurité à laquelle la plupart des hommes s'agrippent si fortement, et cette sécurité à laquelle la plupart des gens s'agrippent si fort n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de sécurité dans les rues de nos grandes cités modernes aujourd'hui, puis même les avions peuvent tomber, la guerre flambe un peu partout, il y a des bombes qui explosent un peu partout. Sommes-nous si sûrs? Dieu ne nous donne pas cette sécurité matérielle. Au lieu de quoi, il offre la foi, lui. La foi. Une foi qui commence, en un sens, là où la raison finit. Et nous verrons dans la deuxième partie, comment devenir fou de Dieu? Comment devenir des amis de Jésus pour vrai de vrai? Je vous parlais de sécurité. Eh bien, cette sécurité à laquelle la plupart des gens s'agrippent. Oui, c'est une illusion. Il n'y a pas de sécurité dans nos rues, je vous le dis. Dieu nous offre le risque, lui. Le danger. Une étrange insécurité qui conduit à la sécurité parfaite. Cette sécurité, elle commence quoi? Elle commence où? Comment devenir des amis de Jésus vraiment? C'est quand on se met à aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. C'est le seul message qu'on ne saurait trop répéter. Mais il a été tellement répété qu'on ne l'entend plus, moi le premier. Il faut recouvrir le squelette de notre vie avec la chair de cet amour, ou bien nous périrons. Et notre Église semble être en train de périr, c'est l'impression qu'on a. Pourquoi? Parce que peut-être il y a trop de squelettes. Est-ce que nous sommes des squelettes ou des amis de Jésus? Nous avons pour cette sorte d'amour le Saint-Esprit en nous. Et avec son aide, viens, Esprit Saint, oui, avec son aide, nous serons capables d'aimer notre prochain. Avec lui, nous aurons le courage de prendre le risque d'aimer le prochain. C'est un risque formidable. Car il faut aussi aimer ses ennemis. Oh là là. Une fois entrés dans cette loi d'amour du Christ, bien, nous avons le pouvoir. Nous avons la grâce, les charismes, pour faire de nos ennemis des amis et des proches aimés même. Même, ça peut aller jusque-là. Aimer son prochain, c'est le risque suprême. Car ça peut vouloir dire aller jusqu'à mourir, s'il le faut, pour mon frère, et tout cela paraîtra très idéaliste et peut-être parfaitement irréalisable, et les gens disent, bah, c'est un christianisme invivable, ça, moi je préfère le christianisme doucereux, où l'on chante les chants de Noël, où l'on mange une bonne dinde, et puis on se réjouit en se disant, c'est Noël. Mais le Christ nous assure que c'est réalisable. Les saints l'ont réalisé. Il en est question à Rencontre spirituelle depuis 3 ans et demi. C'est réalisable. C'est au moyen de ces curieux petits pas faits jour après jour qu'on accepte peu à peu l'autre tel qu'il ou qu'elle est. Qu'on commence à aimer en totalité avec tendresse et compassion, puis une fois le départ pris, ben on s'y trouve de plus en plus profondément engagé. Puis alors, au fur et à mesure que cet amour mutuel entre frères grandit puis s'approfondit, alors là, qu'est-ce qui arrive? Nous entrons dans une révolution. C'est la révolution chrétienne. Saviez-vous ça, que le christianisme, c'est une révolution? Et dans cette révolution, bien, la violence est dirigée seulement contre soi-même. C'est pas une révolution qui est dirigée contre les autres. On met pas des bombes ailleurs, comme certains islamistes. Il n'y a pas question de ça. Dans cette révolution, oui, la violence est dirigée seulement contre soi-même. Il y a tant de choses à surmonter, tellement de choses avant de pouvoir dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, que cette sorte de lutte entraîne une véritable révolution chez l'individu comme dans la communauté humaine, hein. C'est ça qui s'est accompli depuis 2000 ans, et à chaque fois que ça a réussi, ça en a eu une montée. La civilisation s'est installée en Occident et même à l'étranger, dans d'autres régions du monde, d'une façon plus grande, et c'est la figure du Christ qui régnait dans toute sa douceur et sa bonté. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui règne. La révolution du Christ renouvelle totalement les valeurs, hein. Catherine de Huec d'Horty dit bien, « Mes frères et sœurs dans le Christ, je vous en adjure, avant qu'il ne soit trop tard, revêtez votre squelette de l'amour du Christ. » Puis en faisant cela, nous serons en mesure de tirer le monde, notre humanité, de l'abîme infernal dans lequel elle est tombée. Il reste si peu de temps. Nous sommes dans un abîme infernal. Regardez autour de vous. C'est épouvantable. Il y a de bien belles choses dans notre société, c'est vrai. Et particulièrement dans ce temps-ci, là, c'est plein d'efforts, de merveilles. Mais mon Dieu, en même temps qu'on diffusait la messe du pape la nuit dernière, je regardais à d'autres canaux les aberrations, l'impudicité, l'adultère, terre, le... Ah, la violence, le sexe, la musique violente, etc. C'est épouvantable. La jeunesse grandit là-dedans et on se demande où elle s'en va. Pauvre elle, pauvre jeunesse à laquelle on ne donne pas le Christ. Les chrétiens sont-ils en train de devenir un petit groupe? Dans cet immense monde sécularisé, un groupe qui n'a pas grande importance, qui est tout juste toléré, vaille que vaille dans nos journaux, où on se plaît davantage à dire des choses négatives sur nous. Jamais sur l'islam, jamais sur le judaïsme, jamais sur le bouddhisme, toujours sur nous, surtout nous, catholiques. Tout dépend du point de vue où l'on se place. Cela peut paraître, le cas à bien des sociologues et des théologiens, pas d'autres spécialistes, que nous sommes en train de disparaître, que tout est sécularisé, mais l'apôtre laïque du tout venant, là, qui travaille à la chaleur du jour, là, dans des tas d'endroits, ne serait-ce qu'à l'accueil Bonneau, mais aussi au grand séminaire, et puis dans tant d'autres endroits, où... À l'autre bout du monde, dans les missions, dans ces frontières inexplorées de l'esprit pour ceux qui sont des grands contemplatifs. Mais ils seront peut-être d'un autre avis. Il y a certaines personnes qu'on connaît, ou qui sont parfois interviewées même à Radio Ville-Marie, qui nous remplissent d'espoir. Tellement on voit qu'il y a quand même beaucoup de belles choses. Il me semble que chaque jour, à chaque heure, nous avons affaire à des gens dont la soif de Dieu est infinie. J'en vois autour de moi, et c'est beau, et c'est beau, qui sont prêts à tout, à aller n'importe où pour trouver Dieu. Mais parfois, ils savent pas où aller exactement. Il est peut-être un peu exagéré de dire que les jeunes révoltés d'aujourd'hui sont des pèlerins de l'absolu, hein? Peut-être exagéré de dire que ceux qui s'adonnent à la drogue sont en quête de Dieu, mais... À bien y penser. Nous savons que c'est souvent le cas parce que nous les rencontrons, ces jeunes gens, et même ces jeunes gens moins jeunes. Nous les voyons constamment. Mon fils est tombé dans l'héroïne, il en est mort à 40 ans. J'ai vu, de mes yeux vus, chez moi, dans mon appartement, les 4 derniers mois, quand réfugié ici, il avait tout perdu aux mains des trafiquants de drogue. Eh bien, j'ai vu, j'ai écouté, indéfiniment exprimé, sa soif des réalités spirituelles, si bien que je lui ai acheté des t-shirts avec la sainte face sur la poitrine. Je lui en ai acheté 4. Il les portait avec une joie sans borne, avec sa petite croix de bois. Oh, la quête d'un sens de la vie au fond de la drogue, oui. Et dans la tempête de sa confusion, je percevais l'œil de la tempête, l'espèce d'œil. Vous savez, les tempêtes qu'on nous montre à la télévision, il y a un œil au fond, là, qui gruge tout. Puis il en est mort. Et c'est comme ça autour de nous. Écoutez jour après jour la musique moderne des jeunes, nous entendons distinctement le cri du psalmiste. Vous connaissez ça, c'est si beau, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Entends le cri de mon appel. Et Jésus les a prononcés, ses prières. Car il est entré dans le gouffre avec nous. Plus nous vivons, plus nous nous rendons compte que c'est littéralement en masse qu'on cherche Dieu aujourd'hui. Et celui qu'on cherche est le Dieu des chrétiens, au fond. Car je suis sûr que les gens des autres religions, musulmans, juifs, bouddhistes, quand ils voient un vrai chrétien, ils ressentent quelque chose de ce Dieu des chrétiens qui est Jésus-Christ. Ils sentent quelque chose qui les appelle, quelqu'un qui les appelle. Les gens sont en quête de ce charpentier de Nazareth, de ce pauvre prêcheur itinérant qui n'avait pas d'endroit où déposer sa tête, de l'homme-Dieu qui est mort, littéralement, pour l'amour de nous. Le problème n'est pas dans le fait que nous vivons apparemment dans une situation de chute et de diaspora, non. Le problème est que nous, chrétiens, ne comprenons pas que le monde est toujours assoiffé de cette réalité qu'est le Christ, et nous sommes gênés d'en parler. N'ayons pas peur, comme dit Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Hein? Vous savez, les messes avec guitare, ça peut être intéressant, mais l'intérêt s'estompe très rapidement. Bah, les messes avec guitare, Le changement, ça peut être excitant. Mais l'homme ne peut pas vivre uniquement de changement. C'est pas une question de changement. Les changements doivent être une route qui mène à l'essentiel. Je le rappelle, que nos messes soient donc intériorisantes et que l'on sente donc le Dieu de l'absolu est là, au-dessus de l'autel, et que l'Esprit Saint transforme le pain et le vin au corps et au sang vivant de Jésus, non pas mort comme le prétend ce pasteur presbytérien dans la presse avant-hier. Inconcevable, inconcevable. Nous adorons un Christ vivant et ressuscité. Qu'est-ce que l'essentiel? Des chrétiens qui s'aiment entre eux et qui constituent des communautés d'amour où règne l'intériorisation. L'humanité d'aujourd'hui, évidemment, c'est saint Thomas le sceptique qui, vous savez, qui n'était pas là quand Christ est apparu pour la première fois après la résurrection, puis il voulait toucher. Oh, que je l'aime, saint Thomas, je suis comme lui. C'est pour ça que j'ai une grande dévotion au linceul de Turin, parce que j'aime bien déposer la main de mon œil sur la plaie de son côté, et dans ses mains, dans ses poignets, mais d'étudier cet objet mystérieux et merveilleux. L'humanité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un homme qui doit toucher les blessures du Christ pour croire, pour se convertir. Oui, l'homme viendra alors au Seigneur, par milliers, par millions peut-être, je le prédis, je le dis. Oui, si nous connaissions les plaies du Christ, nous verrions jusqu'à quel point il nous a aimés. La seule façon de montrer aux gens ces blessures du Christ, c'est de vivre l'Évangile sans transiger. Mais cela veut-il dire qu'il faut tout mettre sans dessus-dessous dans notre vie? Est-ce qu'il faut mettre tout sans dessus-dessous? Cela signifie-t-il un bouleversement complet des valeurs? Est-ce qu'il faut changer toutes nos valeurs? Est-ce que ça implique de casser, de démolir notre confort de vie? Oui. Oui, tout simplement. Oui, 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 oui. C'est pas facile. Mais Dieu l'opère en nous. Quand nous manifesterons, nous qui nous disons chrétiens, l'Évangile dans notre vie, eh bien, ces chercheurs de Dieu, ces pèlerins de l'absolu, le verront, le toucheront, et ils croiront, puis ils deviendront eux aussi des amis de Jésus. Il est temps que nous montrions à tous les hommes, à toutes les femmes, le visage du Christ ressuscité en qui nous avons, et toute la création à son être. Nous avons son être vivant. Il est temps pour nous de cesser de geindre sur nos petits malheurs. Il est temps de nous mettre à nous aimer entre nous, puis de former des communautés d'amour ouvertes à tous les autres, où ils pourront toucher, voir, palper les blessures du Christ. Nous qui travaillons à la chaleur du jour, aux premières lignes du combat spirituel, nous savons que telle est la vraie et unique réponse à un monde qui cherche si désespérément un sens à la vie. Oui, le temps semble venu pour tous les chrétiens de dire à Dieu en face, « Oui, Seigneur, nous sommes avec toi, ô Seigneur Jésus. Où irions-nous autrement? Ou bien allons-nous dire non, Seigneur? Tes paroles sont trop dures. Nous ne pouvons plus te suivre. Ce qu'enseigne le pape en ton nom est trop dur. » Il exagère, il est attardé, il est trop rêche. Oui, nous pouvons tuer nos enfants. Mais oui, Seigneur, n'exagère pas. N'exagère pas. Mais on est envahi par une profonde tristesse quand on pense à la façon qu'ont des chrétiens de ménager la chèvre et le chou. Qu'est-ce qui nous arrive? Avons-nous oublié que nous sommes les disciples d'un Christ crucifié? Avons-nous oublié qu'il était un simple fils de charpentier, lui-même un artisan, un étrange prêcheur itinérant qui parcourait le minuscule pays de Palestine, y est allé même au Liban, en prêchant son évangile aux pauvres. Avons-nous oublié qu'à partir du moment où il s'est mis à prêcher, il a marché dans l'ombre de la mort? Avons-nous oublié que le suivre comporte le plus grand risque qu'un homme et qu'une femme puissent courir? Avons-nous oublié que le suivre, ça signifie vivre dangereusement? Avons-nous oublié? Dans ces jours de fête de Noël, tout se ramollit et devient rose bonbon. Avons-nous oublié? Il semble bien que nous avons passé, particulièrement les dernières années, mais peut-être même des siècles, à essayer d'éliminer de l'appel de Jésus-Christ tout risque et tout danger. On veut toujours ramollir son message. On dirait que nous avons capitonné le risque. On capitonne, puis on se blesse pas comme ça, c'est bien capitonné. Même on capitonne la porte pour pas entendre son message à travers la porte, hein? La porte de notre cœur. On a pratiquement éliminé tout danger en élaborant un ensemble de règles morales à la façon d'Hans Küng et d'autres personnages qui nous donnent la sécurité à la place de la saine insécurité. Des règles qui nous endorment la conscience. Dormons tous ensemble. Jésus parle là-bas. Oh, on lui dit d'aller s'asseoir avec son évangile. Nous sommes chrétiens. Nous sommes ses amis. Il nous comprend, il nous aime. Au lieu de nous tenir en éveil, au lieu d'avoir une conscience vraiment en éveil qui est prête à assumer les risques de l'existence chrétienne, le Christ a dit que si nous ne sommes pas avec lui, nous sommes contre lui. Nous montrons-nous à la hauteur de cette parole? Sommes-nous réellement avec lui, ses amis? Sommes-nous prêts à abandonner au sens où il l'entend, père, mère, sœur, frère, au sens où c'est requis pour le suivre? Sommes-nous prêts à aligner notre vie sur sa loi d'amour, sur ses fantastiques exigences de dépossession puis d'abandon? Nous aimons-nous vraiment entre nous? Ni à commencer par nous-mêmes, s'aimer soi-même, sérieusement là. Pas s'aimer soi-même égoïstement, mais s'aimer soi-même pour Dieu. Je me demande, mais c'est Catherine de Huec-Doherty qui le dit, combien de temps nous pourrons rester assis entre deux chaises? On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Faut commencer par nous aimer entre nous au plein sens de la doctrine du Christ. Mais pour cela, il faut prier, hein? Et c'est seulement par la prière qu'on peut vivre le Christ jusqu'au Golgotha. Puis grimper sur l'autre face de la croix, puis ainsi être libéré. Les immenses problèmes de la guerre, puis de l'injustice sociale qu'on voit constamment à la télévision, puis qu'on voit autour de nous de plus en plus dans la rue, des mille et un mots qui frappent notre monde. Tout ça ne peut trouver de solution tant que nous ne nous aimerons pas entre nous. Et heureusement, il y a de plus en plus, me semble, d'amour qui règne, de générosité. Puissent les chrétiens répandre ce message que Jésus vient nous porter. Il est né dans, on dit dans une crèche, il est peut-être pas né dans une crèche, tout ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il est né et qu'il est né pour venir nous parler et nous aider à vivre comme des amis à lui, pleins de son cœur, pleins de son amour. Et quand les hommes et les femmes commenceront à voir dans les yeux d'un homme ou d'une femme l'amour, le respect, la vénération du Christ, ils changeront. Et la société changera elle aussi. Cessons de nous montrer des femmes à moitié nues à la télévision qui nous invitent à faire n'importe quoi avec des numéros de téléphone où il faut payer. Quelles horreurs! Comment se fait-il qu'on permette ces choses insensées? On rabaisse la femme. On a un mépris tel de la femme que ça m'épouvante. Bon, par le fait même, on a un mépris tel de l'homme. Les chrétiens doivent déclarer ouvertement leur allégeance ou leur non-allégeance au Christ. L'histoire des disciples du choix qu'ils ont dû faire se répète aujourd'hui pour nous. Quand Jésus dit « Qui dites-vous que je suis? » Mais Pierre, au nom des autres apôtres, s'est déclaré ouvertement pour Jésus, pour Jésus. Une autre fois, les paroles du Christ étaient trop dures, puis d'autres disciples l'ont reconnu, puis ils l'ont quitté. Il est temps pour nous de faire de même et de cesser la mystification. S'il y a jamais eu une période en cette fin de millénaire et au début d'un nouveau immense millénaire, s'il y a jamais eu une période où l'humanité a eu besoin de gens qui suivent le Christ et de moins de gens qui se défilent, c'est bien celle-ci, me semble. Notre monde connaît à coup sûr des orages, d'ampleur nationale et internationale. Il est tragique et pitoyable que des hommes soient incapables de connaître cette paix intérieure qui est l'héritage du Christ Jésus. C'est surtout vrai en Occident où la plupart des baptisés greffés sur le corps du Christ. Nous sommes baptisés ici. Nous sommes greffés sur le corps du Christ, mais qu'est-ce qu'on en fait de notre baptême? Le pape disait en France, Français, qu'avez-vous fait de votre baptême? Québécois, qu'avons-nous fait de notre baptême? Montréalais, Sherbrookeois, les gens de l'Estrie, les gens qui nous écoutent ici à Radio Ville-Marie, à Radio Soleil, qu'avons-nous fait de notre baptême? Que l'Évangile est simple et à propos, quand on y pense. C'est l'Évangile de Jésus, il contient les réponses à nos problèmes, et l'Évangile est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Alors comment se fait-il que nous, chrétiens, nous refusons même d'essayer les solutions de l'Évangile? Comment se fait-il que nous voulions toujours transiger, édulcorer, éliminer de l'Évangile tout ce qui est trop dur pour nous? Comment se fait-il que nous nous contentions de nos subtils reflets de ses paroles vigoureuses, de son enseignement d'amour? Comment se fait-il que quand on pose un geste comme d'adopter un itinérant, tout le monde nous dit « Tu exagères, tu en fais trop, t'es pas obligé de faire ça, c'est pas nécessaire. » Comment se fait-il que tout le monde s'attaque à nous? On dirait que nous avons tout essayé de ce que l'intelligence et l'ingéniosité peuvent trouver. Mais juger l'arbre à ses fruits, cela n'a pas été jusqu'ici avec succès. Nous ne laisserons pas nos enfants un monde où ils fassent meilleur vivre. Nous, au contraire, nous leur laissons un monde encore plus chaotique que celui dont nous avons hérité. Alors il faut changer. Pourquoi dès lors ne pas essayer la manière de l'amour? La manière de l'Évangile. Pourquoi ne pas appliquer à notre vie personnelle, à notre vie nationale, à la vie internationale, l'Évangile sans compromis? L'amour pourrait combler le fossé entre les chrétiens et les autres. L'amour, oui, pourrait combler le fossé. Pourquoi sommes-nous incapables de croire que seul l'amour qui est Dieu peut marcher sur les eaux tumultueuses de notre temps, puis les apaiser? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a? Le Christ, dans sa puissance divine, nous a fait don de tout ce qu'il faut pour vivre en homme religieux, grâce à la véritable connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. Oui, c'est dans la deuxième épître de Saint Pierre, le premier pape. Il ajoute ainsi, « Dieu nous a fait don des grandes richesses promises, et vous deviendrez participants de la nature divine en fuyant la dégradation que le désir produit dans le monde. » Si le premier pape disait ça, ben, son successeur actuel dit la même chose, et on ne veut pas l'écouter. Oh mon Dieu, quand donc ouvrirons-nous nos oreilles pour que nos journaux soient remplis de merveilles de l'Évangile, et nos revues, l'actualité, puis tout ça, quand est-ce?